Les jeux rétro sont pour beaucoup un chouette souvenir d'enfance, que vous ayez été jeu d'arcade, console ou PC. Mais étrangement, ils ont survécu. Ils ont passé l'épreuve du temps et ils sont toujours là, sur les consoles rétro, sur les Raspberry Pi ou qui sait où encore. Il y a toujours autour d'eux une communauté de bidouilleurs passionnés qui les font revivre, presque intacts, après toutes ces années. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Eck. David est le créateur de la très populaire chaîne YouTube Gunhead TV, mais aussi l'auteur des chroniques de Gunhead que vous pouvez retrouver sur Amazon. Une merveilleuse occasion de parler des jeux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Salut David, bienvenue.
Salut Stéphane, merci à toi de m'inviter.
Avec plaisir, aujourd'hui on a un épisode un peu décalé puisque aujourd'hui on va parler de rétro gaming. Donc tu as une chaîne qui s'appelle Gunhead TV.
Voilà.
Ou faut le prononcer à la française peut-être.
Non, Gunhead TV c'est très très bien.
Parfait, et donc qui est sur le rétro gaming. Mais avant qu'on parle un peu du contenu de ta chaîne, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton background et de ce qui t'a amené en fait à faire... une chaîne YouTube sur le rétro gaming.
Voilà. Alors, le déclencheur, c'est mon fils. C'est mon fils Tom, mon plus âgé, qui un jour voyait du matos chez moi assez vieillot et me disait « Ah, tu sais, papa, tu devrais faire une chaîne sur le rétro gaming parce que il y a plein de vieux comme toi qui font des chaînes YouTube sur le sujet et c'est pas mal. » Bon, alors, une fois la petite vexation du vieux passé, je me suis dit bah ouais pourquoi pas, ça peut être intéressant parce que j'avais des vieilles consoles, du vieux matos comme le Virtual Boy de Nintendo, des Amiga 1200, Videopac Plus, voilà j'ai pas mal de vieilleries à la maison et je m'étais dit ouais pourquoi pas effectivement faire une chaîne sur le rétro, ça pourrait être un sujet intéressant qui pour moi permettrait effectivement de me changer un petit peu les idées, parce que parallèlement à ça, j'étais maire de ma commune. Voilà, j'ai été maire dans un Saint-Aubin de 2008 à 2020. Donc là, la création de la chaîne, ça remonte à 2016. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de changer un peu de registre et de me faire plaisir avec des sujets qui m'intéressaient. Donc voilà, donc mon fils m'a initié, alors tout simplement avec iMovie et puis mon téléphone portable comme caméra. Et puis je me suis lancé dans l'aventure. Et puis, au fil des mois, la chaîne a progressivement progressé, on va dire, puisqu'elle est maintenant à 12 400 abonnés. Alors, c'est pas non plus énorme sur YouTube, mais certaines vidéos marchent bien. Et je me suis rendu compte que ce qui intéressait le plus les viewers, c'était le côté, c'est-à-dire potes qui racontent une histoire à d'autres potes. Voilà, c'est-à-dire je me prends pas au sérieux, je raconte simplement un petit peu mon vécu de gamer et puis je raconte ça à des potes de façon très décontractée et malgré tout le plus sérieusement possible. C'est-à-dire que voilà, j'essaye de ne pas dire trop d'inepties. Donc voilà, pour résumer le plus rapidement possible, on va dire la philosophie de la chaîne et de ce projet.
Ok, ce qui me surprend en fait, c'est que enfin, moi, je pense que le rétro gaming, ça touche une génération qui, aujourd'hui, c'est les cadras, c'est les quinquas, peut-être. Je ne vexer personne en disant ça. Et ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, tu me dis, c'est ton fils qui t'y a amené. Et ça veut dire que quoi? Ça touche aussi un public plus jeune?
Mon fils, a des copains. J'ai plusieurs. Alors, mon fils n'est pas spécialement branché rétro. Hein. Pour lui, c'est la génération dématérialisée. J'ai trois garçons hein, qui ont 20 ans, 16 ans et 11 ans. Donc, j'ai plusieurs tranches d'âge à la maison. Et voilà, ils ne sont pas spécialement intéressés par le rétro gaming. Par contre, ça les interpelle parce que le fait de conserver des boîtes de jeux, je vais te sortir des vieux jeux Amiga ou des vieux jeux Sega Master System, des jeux PC Engine en boîte, etc. Pour une génération complètement habitués au dématérialisé, pour eux, c'est un peu saugrenu quoi, de conserver ce genre de truc. Mais malgré tout, ils sont sensibles à ça et ils sont curieux. Et je me suis rendu compte lors d'une convention à Villejuif qu'il y avait des jeunes qui avaient une vingtaine d'années qui étaient passionnés par le rétro gaming. Alors c'est vrai que ça me surprenait. Mais en fait, finalement, pas tant que ça, parce qu'on se rend compte que les jeunes sont quand même curieux, ils aiment savoir un petit peu l'origine de leur jeu actuel, parce que c'est vrai que quand on parle de certaines franchises, bah, y a un historique, et cette histoire des jeux vidéo, bah, quelque part, elle les intéresse, parce que ça leur permet aussi d'en savoir un petit peu plus sur toute cette histoire des jeux vidéo et comment on en est arrivé là. Donc voilà un petit peu comment ça s'est venu, et puis derrière voilà, ça s'est enchaîné tranquillement avec de plus en plus d'abonnés qui m'apportent aussi des informations, et tout cela aboutit en fait à la création d'un bouquin, les chroniques de Gunet TV, où là ben effectivement je me suis encore plus passionné par le sujet. Et donc, derrière ça, voilà, je me suis lancé dans l'édition de 4 livres. Il y en a 2 qui sont publiés à l'heure actuelle, il y en a 2 autres qui vont arriver. C'est les chroniques de Gunet TV, et je parle des consoles de jeux vidéo maudites et autres systèmes damnés. Voilà, je parle que des losers. C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà comment, pour résumer un petit peu le parcours.
Alors, ça m'a fait penser au retour du vinyle, hein, typiquement. On a de la musique dématérialisée aujourd'hui. Avoir une belle pochette d'album, avoir quelque chose, ça touche toujours un peu les gens. Mais dis-moi, le rétro gaming, ça couvre un vaste domaine. Ça va des bidouilleurs qui veulent bricoler des vieilles consoles, à ceux qui sont passionnés par les jeux, à ceux qui aimaient les consoles, les ordinateurs, peut-être les bornes d'arcade. Enfin bref, c'est super vaste. C'est quoi ta définition à toi du rétro gaming ?
Alors c'est très compliqué à définir, pour la simple et bonne raison que à partir de quand on estime que qu'on puisse donner une datation au rétro gaming, parce que pour moi la PlayStation 4 c'est pas du rétro gaming, mais quelque part dès lors que t'as un nouveau système qui est arrivé, on pourrait dire bah si finalement la PlayStation 5 c'est aussi du rétro gaming. Donc c'est quand même assez compliqué de faire une définition précise, hein. C'est vrai que c'est le sujet est sensible. Comment on peut dater un petit peu ce rétro gaming? Comment on peut le définir? Là encore, c'est compliqué. Moi, j'estime pour ma part que c'est une question de passion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te passionnes pour telle ou telle machine, puisque comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, quand j'étais en convention à Villejuif, je suis tombé sur un jeune de 20 ans qui a toujours hérité des consoles de ses grands frères ou de ses cousins. Donc il dit, j'ai toujours eu un décalage. Quand tout le monde jouait à la PlayStation, moi je jouais encore à la Super Nintendo. Donc il dit, pour moi, mes premiers repères, ça va être Super Nintendo Dreamcast. Pour moi qui ai 48 ans, ça va être l'Atari 2600, le Videopac, le Commodore 64, les premiers ordinateurs 8 bits et compagnie. Voilà, chacun en fait a son propre repère sur le rétro gaming. Et sans doute que mes fils, pour eux, le rétro gaming, ça sera le jour où ils ont découvert la PlayStation 3, le jour où ils se sont éclatés sur une Xbox 360. Enfin voilà, après, c'est chacun a sa propre interprétation, on va dire, du monde rétro. Et c'est compliqué de le définir. Moi, je veux pas justement le mettre dans un genre particulier, parce que j'estime que on est passionné tous. C'est-à-dire moi j'ai des personnes qui viennent sur ma chaîne et qui vont regarder que les sujets où je parle de bornes d'arcade, parce qu'en fait eux il y a que l'arcade qui les intéresse, et eux voilà, ils ont connu les jeux vidéo quand ils allaient au troquet du coin avec leurs potes, ils faisaient un baby foot, un flipper, et puis bon bah voilà, ensuite ils enchaînaient avec un jeu vidéo. Donc ça c'est pour moi effectivement une définition que je peux entendre du rétro gaming. Uniquement l'arcade. D'autres, ne s'intéressent qu'au micro-ordinateur. Voilà, chacun, pour moi, a sa propre interprétation du rétro-gaming, sa propre datation également. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut effectivement laisser les uns et les autres. Faut pas enfermer le genre. C'est, S'il fallait résumer, c'est ce que je dirais, parce que c'est quelque chose qui est mouvant. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas le fixer à une date précise. C'est quelque chose qui est flou. Pour moi, c'est pas une science. Hein, ça m'énerve aussi tous ceux qui sont un peu pompeux avec l'histoire des jeux vidéo, qui deviennent un peu des ayatollahs et qui vont sacraliser tel ou tel titre ou telle machine, que ça soit la NES, la Mega Drive ou autre, parce qu'il faut se rappeler des fondamentaux. À la base, c'est fait pour du business. C'est là pour faire de l'argent, que ça soit les jeux vidéo ou les ordinateurs. C'est une démarche commerciale. Le but du jeu, c'est d'en vendre plus. Donc voilà. Donc ce qui m'agace un petit peu dans ce monde du rétro, c'est le côté collectionnite où des jeux prennent des cotations complètement dingues. Où les jeux sont dans des blisters, faut absolument pas y toucher. On sacralise un peu trop le jeu vidéo. Alors qu'à la base, il faut quand même se rappeler que ce n'est qu'un amusement pour les jeunes. Hein, et après pour les adultes.
Ouais. De ce que je comprends de ta définition du rétro gaming, finalement, ça pourrait être un peu tous les jeux, et tout le matos qu'on a pu utiliser quand on était gamin et duquel on garde un bon souvenir.
Ouais, exactement. Je pense que ouais, tu as bien résumé la chose. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment c'est basé sur le souvenir personnel, puisqu'en fait, je le vois dans les commentaires, les gens qui me laissent des retours, c'est parfois c'est parfois un peu poignant parce que les gens expliquent que c'est leur papa qui leur avait acheté cette machine lors d'un Noël et puis il leur avait. C'est la surprise aussi à un anniversaire, à une communion. Donc, c'est associé à une tranche de vie. Et donc, forcément, il y a la fibre nostalgique qui fonctionne devant certains sons, devant certains pixels, devant une boîte de jeu. Ça déclenche une bouffée de nostalgie. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que le rétro gaming en lui-même, si c'est cantonné à de la collection et au côté historique, pour moi, ça ne va pas. Moi, je prends un angle d'approche qui est complètement différent. C'est que ça soit sur ma chaîne ou dans mes bouquins, c'est un pote qui raconte son propre vécu à d'autres potes. Voilà, ça s'arrête là. Et c'est un petit peu ma philosophie, c'est-à-dire que je vais dire parfois des gros mots, je vais raconter des anecdotes farfelues, par exemple sur l'histoire de la Vectrex. Bah, je raconte que c'est parti d'un mensonge. J'étais pas en colonie de vacances, mais en centre aéré, on était en camping, on était autour du feu avec des patates qui étaient en train de chauffer dans du papier aluminium. Voilà, bon, ça maintenant, on ne le verrait plus, mais bon, à l'époque, c'était un peu comme ça, le camping des centres aérés. Et puis, avec les copains, on se dit, bah, toi, t'as quoi comme console? Bah, moi, j'ai une Atari 2600, moi, j'ai une télévision. Et puis moi, pour la frime, comme je les connaissais pas, j'ai dit, j'ai la Vectrex. Donc voilà, je raconte un petit peu le contexte, et à partir d'une petite anecdote d'enfance, bah, je vais raconter un petit peu l'histoire, toute la trame qui va en découler, parce que bah forcément il y avait un gars qui habitait pas loin de chez moi qui du coup voulait venir la voir, et j'étais embêté parce que j'avais baratiné et j'avais pas la console chez moi. Donc voilà, ça part d'anecdotes complètement surréalistes, un peu décalées, et puis à partir de là on raconte une histoire, et je me suis rendu compte que c'était les vidéos qui marchaient le mieux. C'est la base du storytelling, hein, c'est-à-dire que plutôt que de raconter lire entre guillemets une fiche Wikipédia, c'est ce que font beaucoup de youtubeurs à mon grand regret. Ils font des vidéos de 5-10 minutes, ils parlent de toutes les consoles, et pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont jamais eu les consoles entre les mains. Donc moi, je ne parle que des systèmes que je connais. Je vais pas dire que je connais telle ou telle machine si je l'ai jamais eu entre mes mains. Donc, je parle des machines que j'ai côtoyées dans ma jeunesse. Et puis, à partir de là, en partant d'une anecdote, je développe. Alors, il faut dire aussi pour les auditeurs que j'avais quand même un avantage par rapport aux autres en grandissant, c'est que j'ai ouvert une boutique de jeux vidéo, Objective Games à Arras. C'était en 1994. Donc, c'était juste avant l'arrivée de la PlayStation, de la Sega Saturn, et puis de la 3D, entre guillemets, dans les jeux vidéo à outrance, on va dire, puisque la 3D existait déjà, mais pas de façon aussi développée. Donc voilà, donc pendant cette période-là, cette période où j'ai eu ma boutique, forcément, j'avais énormément de consoles de jeux vidéo, et ça me permet aujourd'hui d'avoir un vécu sur le sujet.
D'accord. On a affaire à un spécialiste. Alors, raconte-moi un peu le format de tes vidéos qu'on peut retrouver sur ta chaîne Gunnet TV. Donc, tu nous as dit, c'est une histoire que tu racontes à tes copains. Et alors, comment ça se déroule? Combien de temps ça prend? Qu'est-ce que tu fais justement pour rendre la vidéo attrayante?
Alors, pour rendre la vidéo attrayante, alors il n'y a pas que des babes, je tiens à le préciser, parce que c'est vrai que souvent on me dit, ah ouais, t'es quand même un petit peu coquin, tu mets des babes dans tes vidéos. J'ai une approche décalée, c'est-à-dire que dans les années 80, il était courant effectivement de mettre des femmes à toutes les sauces pour promouvoir un jeu vidéo, pour promouvoir une console. 80-90, t'avais souvent ce côté un petit peu femme objet qui était utilisé aussi bien dans des émissions de télévision que d'autres. Je pense au Colaro Show, à Benny Hill, toutes ces émissions un petit peu triviales où t'avais effectivement des nénettes en bikini qui étaient autour de ça. Donc pour rentrer complètement dans ce personnage de Gunhead, je reproduis ça en faisant parfois des allusions un petit peu graveleuses, un petit peu décalées, alors qui font parfois grincer des dents. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, on n'est plus du tout dans la même époque. Mais malgré tout, moi, je l'assume et je revendique ce côté un petit peu décalé. Et ça plaît énormément parce que ça tranche avec le côté lisse et propre de YouTube. D'ailleurs, ça me vaut une classification 18+ de YouTube sur pas mal de mes vidéos, ce qui est assez surprenant parce que on pourrait se dire tiens, c'est quand même curieux que YouTube ne tolère pas telle ou telle chose, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que pour certaines vidéos, j'ai eu des problèmes avec des féministes qui me sont tombés dessus en me décernant le prix du plus grand bof de l'année 2020. J'ai dû me justifier auprès de YouTube parce que forcément il y a eu des signalements, des machins, etc. Alors que dans l'absolu, il y a absolument rien. On ne voit pas le moindre téton, on ne voit pas le moindre acte suggestif. Ce ne sont que des images de magazines des années 80 ou des petites séquences vidéo style Sabrina, la chanteuse, dans son clip Boys, 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 où elle rebondissait dans la piscine. Donc voilà, c'est un peu l'iconographie des années 80 que je glisse dans des vidéos pour les mettre dans un contexte, parce que quand je parle par exemple du jeu Outrun de Sega, jeu d'arcade culte s'il en est, bon ben voilà, je me replace dans les années 80, dans l'année 86 en l'occurrence, la date de sortie du jeu. À l'époque, il y avait Magnum à la télévision, il y avait le problème de Tchernobyl, etc. Donc je raconte un ensemble de faits. Et à partir de là, voilà, je développe mon histoire par rapport à ça. Donc il y a le contexte qui est pour moi important, et donc j'utilise effectivement j'appelle ça des allégories, c'est-à-dire des allégories avec des trucs complètement décalés pour surprendre aussi un petit peu mes abonnés. Voilà, c'est un petit peu le fonctionnement de Gunnet TV. C'est vraiment décalé. Voilà, je tiens à le dire parce que c'est vrai que ceux qui s'attendent à avoir un truc historique, classique sur le rétro gaming seront, je pense, décontenancés parce que c'est pas du tout la philosophie de la chaîne.
Et au-delà du côté décalé, est-ce que donc dans tes vidéos, il y a quand même un côté documenté sur ce que tu présentes? Comment ça se passe par rapport à, je sais pas, tu vas présenter une console ou comparer deux consoles? Comment est-ce que ça va se passer, cette partie-là?
Alors, cette partie-là va être abordée en cours de route, c'est-à-dire que la construction narrative de la vidéo, on part souvent d'une anecdote ou d'un point de détail. Par exemple, sur 3DO, c'est quand même des gens qui ont décidé à un moment donné de créer un standard des jeux vidéo. Donc pour moi ça mérite qu'on s'y attarde. Le gars à l'initiative du projet s'appelle Trip Hawkins, c'est le fondateur d'Electronic Arts. C'est un vieux de la vieille puisqu'en fait il était à l'époque l'un des tout premiers employés d'Apple. Donc voilà, c'est un gars qui a commencé chez Apple. Ensuite il a volé de ses propres ailes et il a créé Electronic Arts premier éditeur entre guillemets de jeux vidéo, on va dire où il y a eu quelque part la notion de mise en avant des artistes. Bon voilà, bon ça c'est Trip Hawkins qui l'a fait avec Electronic Arts, et ensuite il s'est dit bon ben voilà, l'édition de jeu c'est bien, mais il faut standardiser tout ça parce que c'est un petit peu le bordel dans les jeux vidéo, donc j'ai envie de faire quelque chose de complètement nouveau dans le milieu. Et à partir de là, voilà, il a lancé son concept en s'associant avec Panasonic, en s'associant avec l'américain AT&T. Voilà, il y a comme ça un consortium qui a été créé. Et puis il a lancé sa console. Et puis ça a fait un flop retentissant. Pourtant la machine, c'était une PlayStation avant l'heure. Hein, elle faisait du multimédia. Il y avait de la 3D. C'était vraiment un concept vraiment impressionnant. Mais il s'est complètement loupé. Il s'est complètement loupé sur ce projet-là. Et donc voilà, moi ça m'intéresse de raconter cette histoire-là parce que sur l'histoire d'une machine qui a été conçue au début des années 90, ça a eu des impacts sur l'ensemble de l'industrie par la suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle console, qu'un nouveau système sortait, que ce soit aussi bien en informatique qu'ailleurs, ça posait les bases de l'avenir. Quand on parle de l'Amiga, par exemple, qui a eu le premier système multitâche, le Workbench était vraiment multitâche, bien avant Windows. Et tout le monde disait, bah oui, c'est le Windows killer. Et finalement, on se rend compte que, bah, quelque part, c'est Windows qui a gagné à la fin, enfin Microsoft qui a gagné à la fin, alors qu'il y avait des systèmes révolutionnaires bien avant ce qu'on a pu connaître. C'était une force même commerciale pour Commodore. 3DO, ben voilà, quelque part, c'est Sony qui a vraiment étudié un petit peu les échecs de 3DO pour ensuite faire une machine qui allait devenir bankable. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment intéressant parce que ça permet effectivement de voir un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ce milieu. C'est un business, hein, donc voilà, il faut pas non plus avoir peur de le rappeler. Et à partir de ça, bah voilà, moi je raconte mon histoire, l'histoire de Gunnet TV par rapport à ça, mon expérience personnelle confrontée à des projets vraiment vraiment importants. Alors là, on parle aussi d'Atari, forcément Atari qui a été l'un des pionniers et qui s'est qui s'est cassé la figure avec sa Jaguar. Voilà. Donc tout ça c'est des enchaînements en fait.
Ouais, mais justement, alors, cette question qui me taraude depuis tout à l'heure, parce que tu nous as dit que tu aimais bien parler des consoles qui avaient été des échecs. Sur Atari, j'ai vu plus de documentaires sur la fin d'Atari que sur le début d'Atari, par exemple. Qu'est-ce qui est attirant, intéressant à parler d'une console qui n'a pas rencontré son public?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme je te le disais, de ces échecs naissent d'autres projets. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple de la ColecoVision. La ColecoVision, qui a été distribuée en France par CBS, donc les frères Greenberg, qui sont à la base Coleco ne faisait que des jouets en cuir, enfin ils n'étaient pas vraiment dans les jeux vidéo. Et puis, à un moment donné, ils décident de se lancer dans ce business un peu fou des jeux électroniques. Donc, ils créent une division parce qu'ils voient qu'Atari cartonne, etc., etc. Et ils se disent, on va faire une console, mais la console ultime. On va lui mettre un super processeur, on va lui mettre un Z80. On va faire des trucs de fou avec cette machine. Et quelque part, ils construisent effectivement une borne d'arcade à domicile. Et dans leur schéma commercial, ils se disent il faut absolument qu'on s'associe avec des grands de l'arcade. Donc, ils demandent à Nintendo l'autorisation d'utiliser Donkey Kong. Ils demandent à Sega d'utiliser Zaxxon. Et à partir de là, voilà, ils créent un business plan autour de leur truc. Et ça marche. C'est-à-dire que le lancement est spectaculaire. La presse, à l'époque, tout le monde dit, tout le monde applaudit des deux mains en se disant mais c'est fabuleux ce qu'ils ont fait là. C'est génial, patati patata. Et donc, Donc voilà, donc le truc prend vraiment racine, on va dire. Et sauf qu'il y a le crash des jeux vidéo fin 83 et tout s'effondre. Et tout le monde dit ouais, les jeux vidéo c'est fini, les gamins ils vont revenir au bilboquet, au petit soldat de plomb, voilà, ils vont revenir aux jeux traditionnels, mais les jeux vidéo c'est mort, c'est fini. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, bah, ça te permet d'avoir un autre regard sur les jeux vidéo, puisqu'ensuite, les Japonais de Nintendo vont s'inspirer de la ColecoVision. Ils vont simplement, ils vont aller aux États-Unis et puis ils vont acheter la bécane et puis derrière, ils vont dire, bon, on va la décortiquer pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas avec cette bécane. Et c'est là en fait où ça devient complètement fabuleux, c'est que ces machines-là, ont donné naissance ensuite à d'autres systèmes. Donc là, je parle de la Famicom, bien sûr, mais Sega de son côté va lancer la console SG-1000, la première console de Sega. Derrière ça, ils vont lancer aussi le standard MSX, c'est-à-dire que l'ordinateur MSX avec un système de Microsoft. Quand on le décortique, on se rend compte que c'est ni plus ni moins qu'une ColecoVision transformée en ordinateur. C'est-à-dire que la base du premier MSX. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse à raconter à mes viewers, que derrière des échecs cuisants, on a parfois des histoires complètement surréalistes et qui ont façonné l'histoire des jeux vidéo. Donc voilà pourquoi moi ça m'intéresse beaucoup ces petites anecdotes entre guillemets parce que c'est un côté un petit peu délirant quoi on va dire.
En t'écoutant parler, je me rends compte que t'as pas forcément besoin de support vidéo pour parler des consoles. Pourquoi avoir choisi d'avoir fait une chaîne YouTube plutôt que peut-être un podcast?
Bonne question. J'avoue que je saurais pas trop répondre à ça parce que quand je me suis lancé, c'est le fiston qui m'a motivé à faire cette chaîne. Par contre, derrière, c'est vrai que beaucoup me disent, moi je te regarde pas, je t'écoute. Donc c'est curieux pour moi qu'on me dise ça. Et les gens me disent, tu sais, David. C'est bien tes vidéos, mais en fait, moi, je les écoute. J'ai par exemple un dessinateur de bande dessinée, c'est le dessinateur de Ricochet, Simon Van Limpt, qui me dit, moi, quand je bosse sur ma table à dessin, je mets Gunhead en fond, et puis je binge-watch tes vidéos, et puis j'écoute tes histoires, parce que ça me fait penser à des souvenirs, à l'époque où j'étais un fan d'Atari ST. Et donc c'est un petit peu ce truc-là qui me fait plaisir, c'est que je me rends compte que beaucoup m'écoutent comme ça. Et c'est vrai que le format podcast se prête très bien à l'exercice. Donc pourquoi pas à l'avenir, hein. C'est vrai que pour l'instant j'ai pas le temps matériel de tout transformer en podcast, mais pourquoi pas à l'avenir, hein. C'est vrai que c'est pas exclu.
Alors, est-ce qu'il t'arrive aussi parfois, dans certains épisodes, d'avoir des intervenants, de faire des interviews ou d'autres choses comme ça ?
Non. Ça, je fais pas encore de live ou des interventions de personnes extérieures. Je suis souvent invité, par contre. C'est-à-dire que j'ai une communauté de potes qui m'invitent. Bouche à oreille fait que, par exemple, je me retrouve à tes côtés. Alors que quand j'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez, je me suis dit mais de quoi allons-nous causer, parce que moi je suis pas du tout dans le sujet que vous abordez, dans les sujets que vous abordez habituellement. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est ces rencontres, et je fais beaucoup d'interventions chez les autres. C'est-à-dire quand on m'invite, généralement je ne dis pas non, je réponds favorablement, puis on échange autour de cette histoire des jeux vidéo. Sachant que moi, je l'aborde du côté des losers, parce que ça m'intéresse pas de parler du succès de Sony, de Microsoft, d'Apple et des autres. Voilà, ils sont encore présents, ils sont pas morts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de ceux qui ont eu des destins flamboyants, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont tout explosé, ils ont lancé des concepts de fou, et puis ça a explosé en plein vol. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui est assez dingue que je raconte dans le premier volume de mon livre. c'est le Konix Multisystem. Alors Konix, c'est un fabricant d'accessoires. Et le gars, à un moment donné, s'est dit, je vais lancer une console révolutionnaire avec un siège monté sur vérin hydraulique. Donc, bon, le gars, il se lance dans son truc. Et puis, chose complètement dingue, le truc va commencer à prendre. Et au niveau de l'ingénierie, ça tient bien. Il arrive à avoir une console qui tienne la route autour d'un processeur Intel. Il commence à mettre des features 3D, etc. Donc, voilà, on est au milieu des années 80 et le gars prévoit de faire une console révolutionnaire. Et comme ça, à la base, Konix vend des accessoires, ils vendent des manettes de jeu, il se dit, bah, moi, ma console, elle va être orientée autour des accessoires. C'est-à-dire que le système va être conçu autour des accessoires. Donc, il y aura un gun, un phaser pour tirer sur l'écran, il y aura un volant pour jouer au jeu de moto, il y aura un stick pour jouer au jeu d'avion. Et puis, bah voilà, cet Anglais, enfin c'est un Gallois, mais cet Anglais surprend de plus en plus de monde, à tel point que George Lucas lui dit, bah écoutez, moi je suis intéressé par votre projet, parce que Star Wars, dans un siège à vérin hydraulique, ça pourrait être sympa. Donc il rencontre George Lucas, il y a Sony qui est intéressé aussi pour une distribution au Japon et aux États-Unis. Le truc commence à prendre, prendre corps. Je vais pas spoiler la fin de l'histoire, mais ce truc-là qui était révolutionnaire, qui a préfiguré de ce qu'allait être la Nintendo Wii, parce que la Wii, c'est ni plus ni moins que ce concept-là. Alors bien sûr, il n'y a pas le siège avec vérin hydraulique, mais malgré tout, il y a quand même ce côté d'accessoires et de jeux qui tournent autour de l'accessoire. Donc voilà, moi, cette histoire-là, elle n'est pas connue. Alors, à la base, c'est un Anglais qui a raconté cette histoire-là. Donc, je suis rentré en contact avec lui, on a échangé, et puis il m'a fourni des documents qui sont assez intéressants. Et moi, j'en ai fait une vidéo. C'est-à-dire que, quelque part, les bouquins de Gunnet TV, les chroniques de Gunnet TV, vous n'êtes pas obligé de les acheter. C'est-à-dire que tout est en ligne. C'est-à-dire que tout est sur YouTube, tout est consultable gratuitement, et personne n'est obligé d'acheter les bouquins pour avoir ces histoires-là. Sauf que, à la demande de pas mal de viewers, on dit, ça serait sympa si tu mettais tout ça sur papier, si t'en faisais des petits bouquins, parce que ça pourrait être intéressant, etc. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure de l'édition, on va dire, en passant tout simplement par Amazon, hein, voilà, j'ai pas cherché, entre guillemets, à me compliquer la vie, parce que j'avais demandé un devis à un imprimeur, et, en gros, voilà, il y avait 5 000 € d'investissement pour 500 bouquins. Et derrière, il me semblait quand même compliqué de m'en sortir sur le long terme avec ce type de projet. C'est-à-dire que ben, il faut gérer la logistique. C'est-à-dire que tu as 500 bouquins à stocker chez toi. Ensuite, il faut faire l'expédition, il faut faire la facturation. Faut créer un statut d'auto-entrepreneur. Enfin bref, ça me paraissait inutilement compliqué, on va dire. Mmh. Donc, Amazon est arrivé avec une solution qui s'appelle Kindle, un programme KDP où, j'ai que mes fichiers à envoyer et eux s'occupent de la mise en page, de l'expédition, des déclarations fiscales, c'est-à-dire que le fisc français est au courant que je travaille pour une boîte américaine. Je paye mes impôts sur le revenu aux États-Unis avec, bien sûr, une petite cote-part au passage pour la France. donc c'est rigolo, moi ça m'amusait de faire ce projet-là. Et puis surtout, je me suis rendu compte que je pouvais toucher un public qui était à l'autre bout du monde, hein. J'ai à titre d'exemple, j'en ai vendu au Japon, au Canada, en Italie, en Espagne, à Singapour, enfin en Australie, enfin des points de vente qui pour moi étaient impossible à atteindre.
Et c'est facile de se mettre à l'écriture sur Amazon? Est-ce que tu as des outils pour t'aider à créer ton livre?
Ben c'est ça qui fait peur, hein. C'est-à-dire qu'Amazon est d'une redoutable efficacité. Il faut pas se voiler la face, hein. C'est-à-dire que le programme KDP, quand tu l'utilises, t'as un suivi par exemple des ventes en temps réel, c'est-à-dire que là pendant qu'on parle, je peux voir si j'ai vendu un bouquin. Ensuite, il y a tout ce qui est mise en page, donc il y a des outils qui permettent de de corriger un petit peu ta mise en page parce que tu envoies un PDF. Donc, à partir du moment où tu envoies le PDF, bon, bah, eux vont dire, attention, vos repères de coupe par rapport au format que vous avez choisi, ça va pas aller. Cette photo-là, elle va être tronquée. Le texte, non, il est pas bon. Donc voilà. Donc, on upload sa couverture. Ensuite, on upload le contenu du livre. Eux, ils s'occupent aussi de le transformer en e-book. Les gens peuvent aussi l'acheter au format e-book. Donc tout ça, c'est quand même des outils qui sont mis gratuitement entre guillemets à disposition. Et faut reconnaître que c'est quand même super sympa parce que ça permet de se lancer dans l'édition. Donc on peut effectivement se créer un petit statut d'auto-éditeur. Mais derrière, moi, ce qui vraiment m'impressionne, c'est le côté de la logistique, le côté prédictif, c'est-à-dire que le fichier, une fois qu'il est mis entre guillemets en ligne, si par exemple on se rend compte qu'il y a pas mal de ventes dans tel ou tel secteur géographique, eh bien, Amazon va livrer la base logistique la plus proche. Donc, pour un jeune éditeur auteur comme moi. C'est quelque chose qui est vraiment excellent. Et puis, comme beaucoup, hein, pendant le confinement, je ne savais pas trop quoi faire, hein, le premier confinement. Donc, je me suis dit, comme j'avais perdu les élections, j'étais même plus maire de ma commune. J'assurais juste la transition jusqu'au mois de juin. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un bouquin comme me l'avaient demandé mes abonnés? Et puis j'ai fait le bouquin sans prétention, sauf que le bouquin, il tenait pas en un seul bouquin, je l'ai découpé en quatre, sinon on se retrouvait avec un livre de 1000 pages. Donc j'ai fait quatre livres, un peu au format MOOC, c'est-à-dire que c'est le format MOOC, c'est à mi-chemin entre le magazine et le livre, magazine et book. Et donc à partir de là, j'ai fait les chroniques de Gonet TV, mais toujours sur un ton très décontracté, avec des illustrations, avec des babes, on change pas une équipe qui gagne. Et ce côté décalé, marche plutôt bien, on va dire.
D'accord.
Alors c'est pas non plus, je n'en vivrai pas, hein, attention, hein, faut pas non plus se voiler la face. Mais j'en suis à 1400 exemplaires vendus pour les deux premiers tomes, donc je me dis que c'est pour un débutant, c'est pas mal, quoi.
C'est plutôt bon. Et alors, je comprends bien que ça permet d'aller créer un livre sans avoir à, en fait, investir une somme au départ. Est-ce que c'est rentable par rapport à ce qu'on vend?
Alors, c'est... Il y a un candidat à la présidentielle qui s'appelle Zemmour, qui s'est fait jeter par son éditeur et qui est passé par Amazon. Et en gros, il gagne pour chaque livre vendu, il touche 8 euros net de droits d'auteur. Moi, pour rien te cacher, je touche 3 euros par livre vendu. Donc, Alors, c'est sûr que on pourrait avoir plus parce que Amazon prend 66% des droits d'auteur. Voilà. Mais derrière, il s'occupe de la déclaration fiscale, il s'occupe de tout. Et à mon humble niveau, parce que si j'avais imprimé moi-même mes livres, c'est ce que j'avais dit, 500 exemplaires, à 10 euros le bouquin, vendu 17 euros, je gagnais 7 ou 8 euros par livre vendu. Mais derrière, il y avait toute la logistique à gérer. Et ça, moi, je suis pas un pro de la logistique, je sais pas faire. Donc, quelque part, c'était pour moi l'opportunité de trouver une solution qui soit pérenne pour moi, enfin qui puisse me permettre le développement de cette petite activité complémentaire à la chaîne, parce que comme je l'expliquais en préambule, le fait qu'il y ait des babes, mes vidéos sont généralement cataloguées 18+, donc il n'y a pas de rémunération sur mes vidéos. Sur YouTube, je gagne je ne suis pas adapté aux annonceurs, on va dire. Ça, c'est la réponse que fait YouTube. Votre contenu n'est pas adapté aux annonceurs. Donc, partant de ce principe-là, comme c'est pas adapté aux annonceurs, je compte pas vivre de YouTube ou autre. Et je ne suis pas à l'abri qu'un jour la chaîne soit fermée. Donc, c'était aussi dans ce sens-là, en disant, si un jour la chaîne la chaîne YouTube est fermée par décision de YouTube. Bon, bah voilà, au moins, je pourrais continuer à avoir mes bouquins tranquillement sur une plateforme. Les gens pourront toujours continuer à les avoir. Et je ne mets que les grosses chroniques sur des machines, hein, que ce soit le Konix Multisystem, la ColecoVision, la 3DO, enfin, tous ces machines-là, la Super Graphics. Alors, ça ne va pas forcément parler aux auditeurs, mais derrière toutes ces machines, voilà, c'est une histoire de l'informatique, c'est une histoire des jeux vidéo. Parce que aujourd'hui, moi, ça me fait rire quand on parle de dématérialisation et autres, mais Intellivision, en 1982, avait déjà envisagé la dématérialisation des jeux vidéo par câble téléphonique. Et ça, c'est quand même dingue, parce que voilà, on a l'impression que tout est nouveau, que c'est né à l'an 2000. Mais non, ces machines-là, que ce soit aussi les autres par la suite, hein, ils avaient déjà envisagé le business plan de se dire, OK, c'est cool de vendre des jeux physiques, mais ça nous coûte cher. Il faut qu'on puisse les vendre soit par le satellite, soit par un autre canal de distribution. Et c'est ce qui me fascine, moi, en me disant, et c'est ce que je dis à mes garçons. Bon, voyez-vous, vous êtes contents parce que vous jouez avec vos téléphones, machin, etc. Mais le concept était inventé depuis belle lurette. Internet n'était même pas encore démocratisé, mais ils y pensaient déjà en se disant, on pourrait peut-être passer par le satellite ou par tel ou tel biais de diffusion. Mmh. Donc voilà. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que derrière tel ou tel échec, il y a eu des idées qui étaient quand même révolutionnaires à l'époque et qui ont permis effectivement le développement de l'industrie du jeu vidéo. Donc
Justement, aujourd'hui, c'est devenu une industrie. Enfin, c'est pas que aujourd'hui. Je veux dire, ça fait quelques dizaines d'années que c'est une énorme industrie, une énorme machine. J'ai l'impression que quand tu racontes tes histoires, on est plus dans un monde d'amateurs, de bidouilleurs, de hackers. Et c'est peut-être aussi ce qui intéresse les gens. C'est le gars dans son coin s'est dit, tiens, je vais mettre un siège sur Vérin et faire ma console autour de ça. Alors qu'aujourd'hui, ce sera pensé par un plus gros éditeur et fait de manière beaucoup plus professionnelle, je vais dire, que simplement de la bidouille.
Ouais, et d'ailleurs, il y a une illustration qui est flagrante, c'est-à-dire que le PDG de Sega, à l'époque de la sortie de Nintendo, alors je ne me souviens plus de son nom exact, alors je ne veux pas l'écorcher, c'est Irimajiri, quelque chose comme ça, mais donc le PDG de Sega à l'époque venait de chez Honda. Il venait donc du monde automobile. Et il disait, et c'est quand même fou, pour le lancement d'une petite machine comme ça, c'est le même prix que le lancement d'une voiture. C'est-à-dire que le développement et la commercialisation de la Sega Dreamcast, avait coûté à Sega $500 millions. Et lui disait, quand on lance un modèle automobile, une nouvelle voiture, c'est quasiment le même prix. Et il dit, là, c'est une console de jeu. Donc, un truc aussi petit, développer autant, mettre autant d'argent dans la recherche et le développement, dans le ceci, dans cela, la pub, le développement des jeux et tout, il dit, ça me paraît surréaliste. Et d'ailleurs, il avait été recruté justement parce qu'il n'était pas du jeu vidéo et qu'il pouvait apporter, entre guillemets, sa pierre à l'édifice. Mais aujourd'hui, quand on voit... Et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire quand on voit l'investissement de Microsoft ou de Sony dans le lancement d'une machine, les coûts sont de 2 milliards d'euros, c'est compris. Et même avec la PS5 et la nouvelle Xbox, on est entre 2 et 4 milliards d'euros. On n'a pas vraiment eu de communication très précise sur le sujet, mais on se dit c'est quand même fou. C'est-à-dire que ces machines-là, aujourd'hui... on pourrait plus la sortir dans son garage tranquillement, on pourrait plus bidouiller. Enfin voilà, tout ça, c'est une époque qui malheureusement aujourd'hui est un peu révolue. Hein. Donc c'est intéressant de faire le parallèle, parce que en 98, quand la Dreamcast est sortie, voilà, $500 millions. Aujourd'hui, on est entre 2 et 4 milliards de dollars pour un nouveau support. Voilà, ça ne laisse plus aucune chance au petit gars du coin, et je pense que effectivement ce côté-là plaît, parce que les gens se disent c'est vrai que c'était une époque où tout était encore à faire, tout était encore possible,
non seulement du côté matériel mais du côté software aussi, puisque il y a eu des gens qui ont créé leurs jeux vidéo, qui ont passé du temps dessus. Maintenant, beaucoup de jeux vidéo sont des grosses machines à plusieurs millions. c'est plus difficile de percer en ayant son idée, en développant un petit jeu, sauf peut-être encore aujourd'hui dans le domaine du mobile, mais sur PC, j'y crois plus trop.
Bah c'est, oui, après, il y a la scène indépendante qui continue de vivre, parce que voilà, l'innovation est souvent du côté des indépendants, on ne la trouve plus forcément du côté des gros éditeurs, hein, qui vont nous sortir le FIFA annuel, le Call of Duty annuel. Il y a des jeux qui se suffisent à eux-mêmes. Hein. Moi, je pense par exemple à World of Warcraft. bon, le jeu est toujours rentable. C'est des titres qui sont bankable à la vie et à la mort. Donc, c'est quand même un peu... c'est surprenant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un business maintenant où il n'y a plus vraiment de prise de risque. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. C'est-à-dire que les gros éditeurs ne veulent plus trop se lancer dans l'aventure de super productions qui vont leur coûter très cher. Et parallèlement à ça, voilà, il y a les indépendants qui essayent de vivre et qui réussissent parfois à faire des concepts de fou. Je pense par exemple à Minecraft. Je veux dire, le gars avait développé Minecraft tout seul dans son coin, peinard. Et puis c'est devenu, voilà, on va dire la référence du genre. Ça c'est des belles, c'est des beaux succès en fait, parce que c'est vrai que personne ne les a vus venir. Beaucoup se posaient des questions sur ce genre de titre. Et puis derrière, voilà, ça a généré des communautés de fans sur ces machines-là. Et au début c'était sur PC, mais après c'est arrivé sur d'autres supports. Et c'est ça qui est quand même incroyable, c'est que il y a encore des success stories qui sont possibles dans le milieu des jeux vidéo. Alors Minecraft, bon, c'est sûr que faut pas non plus se baser que sur ce titre-là, mais il y a plein de petits jeux indés qui ont connu leur heure de gloire et qui permettent en quelque part, voilà, de faire vivre la flamme d'une possible réussite sans passer par des très gros studios, que ça soit des studios américains ou japonais ou autres. Il y a encore cette possibilité-là qui fait plaisir. Mmh. Mais voilà, la réalité est que maintenant, on est dans des business plans de plus en plus ficelés où on ne peut pas se permettre, où on n'a plus le droit à l'erreur quelque part. Donc voilà, ça, c'est une donnée qu'il faut vraiment avoir quand on se lance dans ce business. Hein, c'est que on ne peut plus se permettre d'avoir... droit à l'erreur. Le moindre faux pas pour un gros éditeur, on l'a vu avec Cyberpunk, qui était un jeu qui était attendu, mais voilà, il y a eu une période de crunch qui était terrible pour les développeurs. Il y a aussi eu pas mal d'abus dans le milieu. Hein. On peut parler d'Ubisoft, mais on peut aussi parler de beaucoup d'autres studios. Voilà, on est dans une situation où ça devient tendu pour tout le monde, y compris pour les développeurs de jeux, et c'est un milieu qui est pas dire qui est sans pitié, mais voilà, c'est la rentabilité, et que ça soit celui qui investit dans le développement d'un jeu, c'est-à-dire l'éditeur ou le studio de développement, ils savent qu'ils prennent des risques à chaque sortie de jeu. Donc c'est un milieu qui est très compliqué, hein, qui est très compliqué, et c'est vrai que nous qui le regardons de loin, on le regarde un peu de façon désabusée en se disant, voilà, c'est curieux, c'est un monde qui devient de plus en plus curieux dans celui des jeux vidéo, et je comprends qu'il y ait une envie de se réfugier dans, on va dire, c'est un peu la calinothérapie, c'est-à-dire que le rétro gaming, les vieilles consoles, voilà, ça nous renvoie à une période où tout était plus cool, où tout était moins compliqué, aussi bien dans le développement d'un jeu que dans un projet personnel ou autre. Voilà, c'était la période de l'insouciance. Donc le rétro gaming nous renvoie à ça, mais il nous montre aussi la terrible réalité actuelle, qui est que ça devient très très compliqué de s'en sortir dans le milieu des jeux vidéo. À l'heure actuelle.
Et au-delà de ça, alors je vais peut-être dire une énorme bêtise parce que je ne suis pas trop le marché actuel des jeux vidéo, mais à l'époque, quand j'étais gamin, donc on n'avait pas des jeux 3D, on avait souvent des jeux en 2D, et on était souvent très dépaysé par l'environnement parce que justement c'était très fantaisiste, il fallait compenser le fait de manque de réalité, ou plutôt profiter du fait qu'on ne soit pas dans quelque chose qui se rapproche du réel pour justement aller plus loin dans la fantasy et des choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que peut-être avec les possibilités graphiques qui nous sont données, on est plus souvent dans des univers beaucoup plus réalistes et qu'il y a un aspect un peu fantaisiste fou, un peu décalé qu'on avait dans le jeu rétro qu'on a pu aujourd'hui.
Bah ouais, tout à fait. C'est-à-dire que ça commençait même, j'ai envie de dire, avec la jaquette. La jaquette du jeu, c'est-à-dire la boîte de jeu, c'était déjà une invitation à voyager. Moi, je suis d'une génération où j'achetais le magazine Tilt, le magazine Joystick, Génération 4 et autres. Et voilà, faut pas zoer la face. Ça nous faisait rêver. C'est-à-dire que quand on regardait un test de jeu ou telle ou telle chose dans un magazine, voilà, l'imaginaire fonctionnait. On se projetait en se disant, ouais, ce jeu-là, il va être dingue, patati patata. Voilà, il y avait vraiment je sais pas comment le dire, mais il y avait l'imaginaire qui fonctionnait à plein régime. Et puis on se disait, ben voilà, on se projetait tout simplement dans cet univers-là, en se disant ça va être génial comme jeu, ça va être ceci, ça va être cela. Or maintenant, ben voilà, tout est plus ou moins formaté, hein, tout est plus ou moins. Il n'y a plus vraiment de surprise dans les jeux vidéo, puisqu'en fait, on a une assistance déjà au jeu. C'est-à-dire que maintenant, la difficulté est de plus en plus lissée. C'est-à-dire que le jeu, voilà, il y a une phase de tuto et qui gave un peu les anciens, parce que maintenant, pour jouer à un jeu, il faut passer une demi-heure de tests d'aptitude et autres. Enfin voilà, on nous prend vraiment par la main. Comment il faut faire pour tirer à l'arc, comment il faut faire pour sauter à tel endroit, voilà. Et ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'avant, les jeux d'arcade, tu mettais ta pièce de 5 francs, voilà, t'avais 3 vies, et puis le but de la machine, c'était de te faire perdre le plus rapidement possible pour que tu remettes des sous. Donc voilà, t'étais pas pris en main, t'avais une difficulté que les jeunes générations ne connaissent pas forcément. Et ça, c'est un petit peu ce que je reproche à ce voilà au jeu actuel, c'est qu'on est vraiment de plus en plus pris par la main et il n'y a plus non plus de découvertes extraordinaires. Alors qu'avant, avec quelques petits pixels, on imaginait des choses complètement folles. Voilà, on se projetait dans des univers un peu féeriques. Et voilà, c'est. Bon, après, c'est peut-être, entre guillemets, mon côté un peu vieux con qui parle, et je l'assume, mais voilà, c'est moi un petit peu, j'irais mon regret par rapport à ça, c'est que quand on était gamin, on rêvait de ces images de synthèse, ça nous faisait, voilà, c'était, on se disait, voilà, ouais, c'est génial, c'est super, c'est ceci, c'est cela. Mais maintenant, avec le recul, on se dit, bah, ouais, on y est arrivé au photoréalisme. Mais pour autant, voilà, la magie n'opère pas forcément comme on l'espérait. Donc c'est une simple remarque personnelle, mais c'est quelque chose qu'effectivement je sens partager avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui partagent le même sentiment en disant bah ouais, malheureusement maintenant les jeux sont très aseptisés. L'histoire, en fait, on suit une trame, on est sur des rails, on suit une trame, alors qu'avant l'imaginaire fonctionnait à plein régime parce que voilà, déjà il y avait l'avant où on avec une simple petite vignette, une simple petite preview dans un magazine de jeux vidéo, on s'imaginait déjà mentalement ce qu'allait être le jeu. Alors parfois il y avait de la déception parce que entre ce qu'on avait projeté et puis la réalité du jeu en lui-même, il y avait un monde. Mais là maintenant, il n'y a plus vraiment de surprise. Il y a plein de vidéos, il y a plein de, les jeux sont testés partout. Enfin voilà, c'est voilà, il y a plus ce côté-là de l'attente n'existe plus. Hein.
Alors je te rejoins pas à 100%. Je suis d'accord avec toi. Je me rappelle de quand j'étais au lycée, je crois, j'avais vu dans un magazine un jeu qui devait sortir sur Neo Geo, je crois, où c'était en fait un paysage où il y avait des dinosaures et c'était de la 3D et ça faisait rêver. Justement, on avait envie de se retrouver dans ce décor et d'interagir avec ce décor. Mais je trouve qu'aujourd'hui, quand même, il y a encore des secteurs qui peuvent nous faire rêver. T'as mentionné Cyberpunk. Peut-être que le jeu était décevant, mais par contre, l'imaginaire qu'il a soulevé avant sa sortie, c'était assez poignant. Et un peu la même chose aujourd'hui au niveau de la réalité virtuelle. Je trouve qu'aujourd'hui, on va être déçu par les jeux de réalité virtuelle parce qu'on est très loin d'avoir toute la complexité d'un monde réel. Mais par contre, c'est attirant, c'est encore attirant et ça fait rêver de se dire qu'on peut se retrouver dans un autre monde, être une autre personne et avoir une autre histoire.
Oui, alors c'est... mais c'est malheureusement, c'est rare parce que Cyberpunk, voilà, c'est... Ils ont osé, et puis alors il y a eu de la déception, mais après le jeu en lui-même est grandiose, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait, qu'on fait fi des bugs et puis un petit peu de la déception originale, on se rend compte qu'effectivement c'est un jeu absolument absolument génial. Donc je suis d'accord avec toi. Même moi, je joue aussi à des jeux récents. Je suis pas non plus bloqué dans les années 80. Un exemple, une anecdote toute bête. J'ai eu un coup de cœur pour un jeu en réalité virtuelle qui s'appelle Astrobot. Alors Astrobot, c'est un petit robot, c'est sur PlayStation, et puis bon bah voilà, il a des mécaniques de gameplay de vieux jeux 16 bits, on va dire. Mm-hmm. Et donc moi j'ai parlé de ce jeu-là comme d'un coup de cœur, Astrobot, et je l'ai sous-titré le Super Mario 64 de la PSVR. Et donc, je fais ma vidéo, je fais mon test, etc. Et en fait, j'avais un abonné que j'avais jamais calculé qui s'appelle Nicolas Doucet. Et Nicolas Doucet, c'est le directeur de Sony au Japon, du Japan Studio. Voilà. Donc, c'est un expatrié hein, qui est directeur d'un studio, entre guillemets, quand même relativement important au Japon. Parce que c'est pas rien qu'un Français soit directeur de ce truc-là, et il me laisse un commentaire. Merci David, tu as compris quelque part la philosophie d'Astrobot. Donc du coup on a sympathisé, on a échangé, ils m'ont même envoyé des goodies de Astrobot du Japon. Enfin voilà, ça a été une belle rencontre parce que tomber sur un directeur de Sony qui est expatrié et puis qui suit ma chaîne, les probabilités étaient quand même faibles. Mais il était passionné de PC Engine et il m'a dit moi mes jeunes ingénieurs, la plupart d'entre eux étaient voilà formatés au jeu actuel. Et donc il dit je les enfermais dans une pièce. C'est ces ingénieurs d'une vingtaine d'années, alors tous japonais bien sûr. Et il leur a dit les gars, je veux que vous compreniez la mécanique de ces jeux. Donc et il leur a fait découvrir alors Super Mario 64. PC Kit sur PC Engine, il dit je leur ai fait découvrir des vieux jeux pour qu'ils s'imprègnent de la maniabilité de cette époque. Et beaucoup d'entre eux ont dit bah punaise c'est dur, ouais c'est pas mal c'est le concept de plateforme patati patata. Et il dit quelque part après ils ont aussi adhéré au projet, et ce qui fait qu'Astrobot il a des mécaniques qui plaisent aux gamins parce que c'est un jeu rigolo, un jeu kawaii, enfin tout ce que tu veux, hein, c'est mignon comme tout. C'est de la VR, donc t'as des scènes complètement impressionnantes qu'on aurait rêvé nous gamins. Et à côté de ça, ben les anciens retrouvent des mécaniques de gameplay de jeux de plateforme des années 80, un peu surréalistes hein, à l'heure actuelle. Et c'est ce qui fait effectivement la force du PSVR. Donc au même titre, un jeu Dreamcast qui s'appelait Rez a été converti sur PSVR. Donc, c'est un jeu musical, en fait, un shoot'em up musical. Et honnêtement, il est parfaitement réussi parce qu'ils ont compris effectivement la mécanique de jeu. Et c'est vrai que quand on le voit, maintenant, on se dit, ok, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu moderniser, entre guillemets, la façon de jouer qu'on avait à l'époque avec des effets de réalité virtuelle aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est vrai que c'est, je ne crache pas dans la soupe. C'est-à-dire que je critique un peu le système actuel. Par contre, je suis parfaitement conscient qu'un jeu, moi, par exemple, comme Red Dead Redemption, un jeu de cowboy, hein, je sais pas si tu connais, mais Red Dead Redemption, le 2 est sorti, je crois, en 2018. ça a été une claque pour moi. C'est une sorte de GTA-like au Far West. Et donc, voilà, tu es dans une bande de gangsters, de bandits. Tu commets des hold-up, machin, etc. Mais tu as une liberté totale. C'est un bac à sable énorme. Et ce jeu a un côté contemplatif. On peut passer du temps simplement à regarder le décor, à faire des missions secondaires, à se pâmer devant telle ou telle situation. Et c'est aussi ce que je recherche dans certains jeux, c'est être surpris. Et là, alors c'est un blockbuster, hein, c'est vraiment un jeu triple A qui a mis 5-6 ans à être développé. Mais ce jeu-là, moi, m'a fortement impressionné. Et j'ai vraiment adhéré au concept. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas non plus complètement fermé à la techno actuelle, puisqu'effectivement, certains jeux me parlent plus que d'autres.
Très bien, David, écoute, merci beaucoup pour cette petite parenthèse dans le podcast qui nous a permis de peut-être retourner un peu en enfance.
Je l'espère.
Et puis pour ceux qui sont curieux de plus, donc je les invite sur ta chaîne YouTube Gunet TV, ou donc à lire tes livres sur Amazon.
C'est bien ça.
Merci beaucoup.
Merci à toi pour ton invitation.
Retrouvez David sur Twitter, @ecdavid, et Gunet TV sur youtube.com/c/GunetTV. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, et à la semaine prochaine.